Alors bonjour à tous. Désolé du petit délai. Il y a eu une petite problématique d'informatique. Bon, j'espère que tout se passe bien et que la diffusion fonctionne adéquatement. Alors bonjour à ceux que je peux voir. Ma belle-mère, Jean-Gilbert, Ozanie, Immacula. Je crois que vous êtes plus nombreux, mais j'ai peut-être pas tous les noms actuellement. Marie-Marthe, bonjour. Sylvia, good morning, God bless you. Bonjour à mon père et à ma mère. Alors, si vous pouviez juste me dire si on m'entend bien, comme je vous ai dit, je viens d'avoir quelques pépins d'informatique, donc juste me dire si le son passe bien. Bonjour Thérèse. Bonjour Marie-André. Bonjour Farley. Bonjour Rosie. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont avec toi, la sœur Chantal, la sœur Ocilia, la sœur Mona. Bonjour Francine. Good morning, Pastor David. Thanks for the feedback. Donc, il semble qu'on m'entend correctement. Alors, bien heureux. Bonjour à ma mère. Bonjour Guy. Dieu la bendiga, hermana Gladys. Merci Francine. Guy, j'ai réglé mon problème de guitare. En fait, j'ai acheté une guitare. Ça règle la problématique. L'autre était trop coûteuse à faire réparer pour le prix même de la guitare. Donc j'ai trouvé une guitare samedi que vous voyez de ce côté-là au fond, à côté du sofa, près de la fenêtre. Je suis très très content. Je me suis beaucoup amusé avec la guitare. Bonjour Myriam, bonjour Donald, bonjour Lucie, Hermana Susana, Dieu la bendiga. Bonjour Denise, bonjour Gérard. La guitare que j'ai trouvée, c'est la seule qui était disponible à Montréal dans ces caractéristiques que je demandais. J'ai été voir dans plein, plein, plein de magasins. J'ai écrit à plusieurs maisons mères. J'ai écrit aux fournisseurs directement. Et c'est pratiquement un peu par hasard que j'ai trouvé par la suite la même compagnie m'a contacté par téléphone, mais c'était effectivement le seul modèle qu'il y avait à Montréal. Donc, très, très heureux de pouvoir retourner à gratouiller la guitare, ça fait du bien. J'en avais besoin entre les deux oreilles. Bonjour Natacha, bonjour Indirène. Shalom, shalom, la belle-mère. J'espérais voir un nom apparaître ce matin, mais le nom n'est pas là. J'allais vous demander de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un, mais la personne n'est pas là. En fait, son papa n'est pas là. Un petit garçon et son papa n'est pas là. Donc, si je le vois apparaître, je vous inviterai à saluer. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Puisque ma mère semble saluer quelqu'un en souhaitant un joyeux anniversaire. Donc on ne veut pas passer à côté là, c'est l'anniversaire de qui? Juste me laisser savoir. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Bonjour Bernadette. Alors d'ici qu'on me donne l'information, je vais juste vous rappeler les annonces pour cette semaine. Vous savez qu'aujourd'hui, on a donc deux rendez-vous. Ce matin, bien entendu, vous êtes là. Et ce soir à 19h avec le pasteur André, c'est le cours sur le livre aux Éphésiens ou sur l'épître aux Éphésiens. D'accord, j'ai noté. Okay. C'est l'anniversaire de la sœur Susanna, qui apparaît sous le nom Susanita. Donc, vous pouvez la saluer, lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Vous pouvez assurément le faire en français. Elle comprendra aussi si vous ne parlez pas la langue de Cervantes. Donc, je disais, vous avez donc rendez-vous ce matin, puis ce soir pour le cours sur le livre aux Éphésiens. Et puis demain, même chose, deux rendez-vous le matin et le soir. Le soir, c'est pour le cours sur les fondements chrétiens. Mercredi, deux autres rendez-vous. La bénédiction matinale. Puis le soir, 19h, notre étude biblique. Jeudi, vous n'avez qu'un seul rendez-vous le matin avec moi. Et vendredi, vous avez deux ou trois rendez-vous, dépendamment de votre âge. Donc la bénédiction matinale le matin et puis le temps de prière et d'intercession le soir. Les jeunes, en même temps que notre temps de prière, ils ont leur réunion sur Zoom pour la jeunesse. Donc ça, c'est les informations pour cette semaine. On vous rappelle que dimanche prochain, on est encore à huis clos, sans public, mais c'est juste le dimanche suivant, donc à partir du dimanche 13 février, que nous pourrons accueillir des gens à l'église. Donc on vous rappellera d'ici là pour la semaine prochaine, on vous rappellera comment vous inscrire pour assister à l'assemblée. Et comme c'était de rigueur juste avant la fermeture des lieux de culte, le passeport vaccinal sera nécessaire pour assister aux réunions de l'église en toute légalité. Et vous savez que le Seigneur nous demande d'obéir aux lois. Celles-ci ne nous empêchent pas de faire notre ministère, ni de prêcher l'Évangile. Elles nous donnent quelques contraintes et qu'on essaie de respecter, parce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Donc, on vous demandera donc de présenter le passeport vaccinal lors de vos retours à l'église. Mais d'ici là, donc, on continue les diffusions, ouais. Et même lorsqu'on aura repris en présentiel, on continuera malgré tout toutes nos diffusions en ligne. Voilà. Alors, prions et après ça, on y va pour l'enseignement du jour. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir pour étudier ta parole, être rassasiés, nourris, interpellés, échangé, transformé par ta parole. Alors ce matin, bénis-nous tous et tends ta main, touche notre entendement, touche notre compréhension et nous prions d'avoir un cœur réceptif à ta parole, un cœur, Seigneur, tourné vers toi et un cœur acquis à l'avancement de ton royaume. Afin, Seigneur, que quoi que tu nous dises, quoi que tu veuilles faire dans nos vies, tu trouves chez nous, Seigneur, une disposition de cœur, une disposition de vie qui te permet d'intervenir comme tu le désires et de faire par nous et pour nous et à travers nous ce que tu désires. Alors en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, cette semaine, on a débuté hier une préparation à la thématique de 2022. Je sais qu'on a annoncé depuis déjà un certain temps que la thématique serait bientôt annoncée, mais lorsqu'on nous a appris qu'à partir du 13 février, on pourrait accueillir les gens de nouveau dans nos locaux. Donc, on s'est dit, on va attendre d'annoncer officiellement la thématique pour l'année 2022 lors de ce premier rassemblement du 13 février avec public. D'ici là, on prend le temps d'étudier le passage qui contient la thématique. On ne la révèle pas officiellement. Ça se pourrait que je le mentionne tout au long de mon enseignement cette semaine, la semaine prochaine, mais ce sera officiellement le 13 février, le dimanche 13 février, que nous dévoilerons publiquement donc la thématique pour l'année 2022. D'ici là, on se prépare, on dispose nos cœurs et on demande au Seigneur de façonner notre être, notre entendement, notre vie, pour bien entrer dans cette thématique importante que nous partagerons donc le 13 février. Le texte important pour nous se trouve dans Matthieu au chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Et comme on est dans une première journée, je vais lire tout le passage, en fait du verset 1 au verset 10, puis du verset 16 au verset 20. Mais cette semaine, on va principalement étudier les versets 5 à 10. Donc, pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 28, du verset 1 à 10, puis du verset 16 à 20. Et aujourd'hui, on va étudier le verset 5. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu bénisse donc sa parole ce matin. Je relis le verset 5. Dans Matthieu 28, je vois quelqu'un demander pour la faire référence. Donc Matthieu 28, le verset 5 que je relis pour vous. « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Alors voilà le passage pour aujourd'hui. Premier point qu'on va aborder, l'ange vient et il prend la parole. Comme on l'expliquait hier, on est donc au troisième jour, le jour où Jésus ressuscite. Ça fait déjà 3 jours qu'il est dans le tombeau depuis le vendredi soir. Et puis là, au matin, les femmes se rendent vers le tombeau pour asperger la dépouille de Jésus avec des huiles de parfum et d'aromates tout particuliers. C'est ce qu'on appelait autrefois embaumer un corps. Quand on embaume une chose, c'est qu'on rend cette chose avec une bonne odeur. Et ici, c'était le cas. Donc, les femmes allaient se rendre, le matin de la résurrection, allaient se rendre au tombeau et voulaient que quelqu'un puisse venir en espérant qu'elles trouvaient quelqu'un pour ouvrir le tombeau en roulant la pierre. Et lorsqu'elles arrivent là-bas, tonnerre, fracas, tremblement de terre, voici un ange qui descend du ciel, qui roule la pierre. Et la Bible nous dit que les gardes qui avaient été placés par les Juifs et par les Romains vont se tenir là. Et lorsqu'ils vont voir la chose, la Bible nous dit que les gardes vont trembler de peur et vont devenir comme morts. L'expression « devenir comme mort », c'est en fait se tapir au sol et feindre le fait qu'on soit mort. Un peu comme ce qu'on dit parfois, je ne sais pas si c'est un mythe urbain ou si ça fonctionne vraiment, mais on dit si vous étiez en forêt et que vous faisiez face à un ours, on conseille de se tapir au sol et de faire comme si on est mort. Dans d'autres cas, ils vous disent de courir, mais de ce que j'ai entendu, un ours peut courir bien plus vite qu'un être humain. Donc, on dit plutôt de se tapir au sol et puis de feindre les morts. Et les gardes, c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils voient cet ange qui descend avec une puissance majestueuse, avec une puissance hors norme, qui à lui seul roule la pierre. Cet ange-là reluit ou luit et ressemble à l'éclair, donc à la force électrique et puis à la lumière que dégage un éclair. Donc assurément, ces gardes savent qu'il se passe quelque chose et qu'ils sont dans la mauvaise équipe, qu'ils ne sont pas du bon côté de l'échiquier. Donc pour éviter un châtiment qui pourrait tomber sur eux parce qu'ils ont été complices de ceux qui ont mis à mort Jésus, ils vont se dire, ben, on fait semblant d'être mort, on se couche au sol, on ne bouge plus parce qu'on a peur et peut-être qu'on nous fera grâce. L'ange, lui, va regarder les femmes et la Bible nous dit qu'il va prendre la parole. Prendre la parole, c'est le terme apokrinomai. Apokrinomai, donc A-P-O-K-R-I-N-O-M-A-I. Donc, je répète, apokrinomai, donc A-P-O-K-R-I-N-O-M-A-I, qui veut dire répondre à un fait ou à une question précédemment exposée. Répondre à un fait ou une question précédemment exposée. Et assurément, ici, il n'y a pas de question qui a été posée. Donc, l'ange ne vient pas parler aux femmes, il parle aux gardes, après qu'on leur ait posé une question. Non, l'ange vient après qu'on ait fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, en fait, on s'est présenté vers le tombeau. On s'est présenté pour rendre un hommage à Jésus et l'embaumer comme la tradition le demandait pour toute personne défunte qui nous était chère. On allait au troisième jour, lorsqu'il était officiellement déclaré mort, on allait vers lui pour l'embaumer. Pourquoi je dis officiellement déclaré mort? Parce que dans la coutume judaïque de l'époque, on avait cette croyance que l'esprit du mort ou du défunt tournait autour du corps pendant les trois premiers jours. Et que c'est simplement après trois jours que, à ce moment-là, on certifiait, on était convaincu que la personne était morte. D'ici là, on se disait la personne peut toujours revenir à la vie. Alors, on est allé embaumer Jésus lorsqu'on était convaincu que Jésus était mort. Et ce faisant, ces femmes-là ont manifesté leur attachement à Jésus. Et on s'entend pour dire que cette fin de semaine-là, se présenter comme un disciple de Jésus, se présenter comme un fidèle de Jésus, se présenter comme un ami, un être cher de Jésus, n'est assurément pas une chose aisée. Donc la chose à laquelle l'ange va répondre, c'est cette audace que les femmes vont démontrer dans leur attachement à Jésus. Elles auraient pu se dire, la menace est grande, on a des risques, peut-être que certaines d'entre elles étaient mamans, peut-être que certaines d'entre elles étaient âgées. Là, ici, on nous parle juste de Marthe, de Marie Magdala et de l'autre Marie. Dans d'autres passages, on nous dit que les femmes se sont présentées, donc peut-être qu'elles étaient un peu plus nombreuses. C'est, la chose n'est pas claire. Mais ce qui est clair, c'est que ces femmes, contrairement aux disciples, contrairement aux hommes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, elles ont osé, malgré la menace, malgré le risque, malgré le fait que ce n'était pas une décision populaire, que ce n'était pas une décision que la foule allait acclamer, mais assurément décrier, elles se sont malgré tout présentées au tombeau pour afficher leur affection, pour afficher leur attachement à Jésus. Et à ça, l'ange va répondre. L'ange va venir s'adresser à elles parce qu'elles ont préalablement démontré un attachement à Christ. Et pour nous, cet enseignement, c'est que Dieu répond à notre quête et à notre état. Ici, ces femmes étaient en quête de Jésus et la thématique pour cette semaine, comme on l'a annoncé hier, c'était certaines caractéristiques de ceux qui cherchent à voir Jésus. Ces femmes-là voulaient voir Jésus pour une dernière fois. Elles allaient rouler la pierre, répandre les aromates, répandre les huiles olfactives, répandre les parfums chers sur Jésus. Elles allaient le voir ou voir sa dépouille une dernière fois. Puis en sortant, la pierre serait roulée et elle serait roulée pour toujours. On allait laisser le corps de Jésus là-bas. Donc les femmes voulaient voir Jésus. Les femmes voulaient s'identifier à Jésus en manifestant leur amour. Et c'est à ça que l'ange va répondre. Lorsqu'on dit qu'il va apokrinomai, qu'il va prendre la parole, dans certaines traductions, on va aller avec un terme qui est peut-être un peu plus juste, il va répondre. Mais il répond à quoi? Il répond à l'attachement. Il répond à la quête de ces femmes. Et ça nous rappelle un peu ce verset qui nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Se laisse trouver par celui qui le cherche. Ça veut donc dire que j'entre dans ma quête de Jésus et Jésus répond en se laissant trouver. Dieu répond à notre quête. Celui qui cherche Jésus, celui qui veut voir Jésus, celui qui veut voir Christ, celui qui veut expérimenter Christ davantage dans sa vie, Dieu répond à cette quête. Et ça, c'est la première chose pour nous ce matin, de savoir que Dieu répond, mais qu'il me faut être dans cette quête. Et ces femmes ne pouvaient pas feindre d'être attachées à Jésus. Si elles avaient faim d'être attachées à Jésus, ben à ce moment-là, elles seraient restées à la maison. Puis elles auraient tout simplement dit, on l'aime, et elles auraient pleuré, sans pour autant mettre en marche leur quête, mettre en marche leur recherche de Jésus. Elles sont allées jusqu'au tombeau. Elles ont fait tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était possible pour elles de faire, afin de voir Jésus. Et Jésus répond à cette attitude de cœur. Jésus répond à cette caractéristique de celui qui le cherche et il se laisse trouver. On nous dit par la suite, mais l'ange prit la parole et dit. Le terme dire, c'est le terme eipon. Eipon, E-I-P-O-N. Je répète, E-I-P-O-N, et je vais prendre une gorgée. Dire eipon, qui veut dire parler, qui veut dire exprimer une chose. Ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement l'ange a répondu à l'attitude et à la démarche de ces femmes, mais il a fait entendre sa voix aussi. Dieu nous indique, et qu'est-ce qu'il va faire quand il va leur parler? Il va leur dire, ben voici, vous ne le trouverez pas ici, mais vous allez le trouver en Galilée. Il va indiquer aux femmes où trouver Jésus, qui n'est plus dans le tombeau. Donc Dieu est toujours désireux de nous indiquer le chemin qui mène à lui, et ce chemin, nous ne cessons de l'annoncer, c'est Christ. Dieu n'est pas resté dans l'univers sans port d'attache avec l'homme ou sans point d'attache avec l'homme. Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans l'ignorance en le concernant et dans l'ignorance concernant le chemin qui mène à lui. C'est lui-même qui a donné le chemin, c'est lui-même qui s'est donné en tant que chemin pour l'humanité qui mène au salut. Donc Dieu non seulement répond à notre quête et à notre état de chercheur de Christ, mais de surcroît à cela, Dieu veut nous indiquer le chemin à suivre. Et c'est là où on retrouve aussi certaines paroles dans l'Ancien Testament qu'on a déjà étudiées en nous disant que la parole est une lumière sur notre chemin, une lampe sur notre chemin, plutôt une lumière sur notre sentier. Ça veut donc dire que Dieu veut éclairer nos pas, Dieu veut éclairer là où nous posons les pieds. Dieu ne veut pas que nous avancions à l'aventure et à tâtons. Il va nous conduire et il veut nous conduire et il veut nous indiquer le chemin qui mène à Christ. Alors, qui que tu sois aujourd'hui, sache que Dieu ne te tourne pas le dos. Et c'est ça l'idée derrière le fait que Dieu répond à notre quête et que Dieu nous parle ou nous indique le chemin. C'est que Dieu ne nous fait pas dos. Dieu ne nous tourne pas dos. Malgré notre iniquité, malgré notre péché, Dieu veut se laisser trouver. Dieu veut se laisser découvrir par qui le recherche. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. » Et j'expliquais hier que la problématique avec la version Louis II, c'est qu'on utilise deux fois le terme « craindre » avec deux mots d'origine grecque qui sont différents. Dans ce verset 5, « craindre » ou « la crainte », c'est le terme « phobéo ». Plus tard, on le voit au niveau du verset 8, où on nous dit qu'après que l'ange leur ait parlé, elles sont parties dans la joie et dans la crainte. Et la crainte, dans le verset 8, n'est plus le terme phobéo, mais le terme phobos. Et ces deux sens différents, ceux qui étaient là hier, savent de quoi on parle quand on parle de phobos. Dans le verset 8, on parle plutôt d'un grand respect. Mais lorsqu'on parle de phobéo dans le verset 5, lorsque l'ange dit « pour vous, ne craignez pas », le terme « craindre », phobéo, veut dire « terreur ». Et ici, il est en train de dire « Vous, femmes qui êtes venues chercher Jésus, je sais que vous êtes venues chercher Jésus qui a été crucifié, alors pour vous, vous n'avez pas à avoir peur, contrairement à ces soldats qui se sont couchés au sol, qui se sont tapis au sol, craignant et étant terrorisés par ce qui se passait. » Il dit « Vous ne devez pas avoir peur ou vous n'avez pas à avoir peur. » Et ce qui est intéressant, c'est que cette terreur qui ne doit pas saisir les femmes doit être interprétée de deux façons. De quoi les femmes devaient-elles avoir peur? Ben, à juste titre, elles devaient avoir peur de ce qui se passait. Assurément, vous vous pointez au cimetière et là, tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Vous voyez un ange de Dieu brillant comme un éclair avec une lumière étincelante et vous savez que foncièrement, vous êtes pécheur ou pécheresse. Et vous savez que vous vous trouvez devant quelque chose qui est si puissant, qui pourrait régler votre vie mettre un terme à votre vie à un seul claquement de doigts. Donc ces femmes, à l'instar de ces soldats, devaient avoir peur ou certainement avaient peur. Et voilà pourquoi l'ange va leur dire « Mais vous, n'ayez pas peur ». Il ne va pas leur dire « N'ayez pas peur » si elles n'ont pas peur. S'il est en train de les exhorter à leur dire, en leur disant « N'ayez pas peur », c'est qu'elles doivent choisir de bannir la peur. Et ici, la pensée importante, c'est donc de bannir la peur de notre relation avec Christ. Elles sont au cimetière, elles sont au sépulcre pour voir Jésus une dernière fois. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur dans votre quête, n'ayez pas peur dans votre démarche, n'ayez pas peur dans votre relation avec Jésus. Combien d'entre nous, malheureusement, vivons une relation avec Jésus basée sur la peur? J'expliquais hier qu'il y a des gens qui obéissent à Jésus ou qui sont en quête de Jésus, mais simplement par peur et non par amour. Il y a des gens qui obéissent à ce que Jésus prescrit tout simplement parce qu'à l'instar des soldats, ils craignent un jugement, ils craignent un châtiment. C'est deux choses littéralement différentes entre servir Dieu, chercher Dieu parce qu'on est profondément en amour avec lui, ou chercher Dieu parce qu'on a peur de son châtiment. Et parfois, les deux notions viennent s'entremêler. Parfois, oui, on est en amour avec Jésus, en amour avec Dieu, mais en même temps, l'image qu'on a de lui, c'est ce qu'on appelle le père fouettard. Ce Dieu qui est avec une cravache, qui veut nous frapper, nous faire mal, dès la première erreur, dès le premier faux pas, on a l'impression qu'on nous a véhiculé cette fausse image de Christ où il est là tout simplement pour nous couper la tête. Un peu comme, vous m'avez crucifié, vous m'avez mis dans le tombeau, moi j'en sors vainqueur, mais j'en sors vainqueur pour prendre ma revanche contre tous ceux qui ne m'ont pas été fidèles. Et il y a des gens qui, par peur du châtiment, par peur de la condamnation, sont obéissants à Jésus. Je me rappelle une conversation que j'avais il y a des années avec mes parents, et je leur expliquais, et à cette époque-là, je ne voulais pas servir Dieu. J'étais dans cette lutte spirituelle avec Dieu, où je savais qu'il m'appelait au ministère, je savais qu'il m'appelait à le servir, et je refusais. Je vous ai déjà dit qu'à un moment donné, j'ai dit à Dieu, regarde mon dos, c'est la dernière chose que tu vois parce que je m'en vais loin de toi. Donc, je savais pendant un certain temps que Dieu m'appelait. Depuis même quelques années, je savais que Dieu m'appelait. Mais je disais, je vais répondre non. Et je disais à mes parents, je ne veux pas servir Dieu par obéissance. Si éventuellement je sers Dieu, je le servirai parce que je l'aime. Et dans ma tête, c'est peut-être utopique de ma part, c'est peut-être tout simplement moi qui me fais des idées, mais je crois que dans ma vie, en tout cas, dans ma conception personnelle, il y a une grande différence entre obéir à Dieu parce que j'ai peur et par obligation, ou obéir à Dieu par amour. C'est sûr que si j'aime profondément quelqu'un, ben cet amour-là va m'obliger à faire de quoi? Cet amour-là va m'entraîner de façon pratiquement obligatoire vers une action, vers une mise en action de cet amour. Mais je voulais qu'à la base, le sentiment qui me faisait bouger, ce n'était pas la peur du châtiment, ce ne soit pas la crainte d'être frappé par Dieu, mais je voulais que si je venais éventuellement à servir Dieu, ce soit fait parce que je l'aimais plus que toute autre personne ou plus que toute autre chose. Et là, nous devons apprendre à bannir la peur de notre relation avec Christ. Arrêter de vivre avec le fait « j'obéis à la parole tout simplement parce que je ne veux pas être en faute, tout simplement pour ne pas être jugé, tout simplement pour ne pas être châtié, tout simplement pour ne pas être puni. » Je crois foncièrement qu'il y a une autre façon de faire. Et c'est aimer tellement Dieu que parce que je l'aime, je veux lui faire plaisir et je veux l'honorer. L'ange est en train de dire aux femmes, n'ayez pas peur dans votre relation avec Christ et dans votre quête et dans votre service que vous voulez lui rendre. Ne le faites pas par peur, à cause de ce que vous venez de voir et parce que vous savez que la puissance de Dieu pourrait vous rayer de la carte en un seul clin d'œil, mais servez Dieu parce que vous l'aimez. Donc, bannir la peur de notre relation avec Christ. Ne plus être chrétien parce que j'ai peur d'aller en enfer, ne plus être chrétien parce que j'ai peur que Dieu me châtie, mais être chrétien parce que je ne peux pas me passer de Jésus, parce que je l'aime plus que quiconque et parce que j'ai tellement besoin de lui et je veux rester toute ma vie avec celui que j'aime. La deuxième crainte qu'il leur dit de ne pas avoir, ben, c'est ne pas avoir peur des gens. Ne pas avoir peur de ces soldats qui maintenant sont accroupis au sol comme des mauviettes. Ces soldats qui ne sont pas capables de se tenir debout et d'être enlignés avec leur agissement, être enlignés avec ce qu'ils ont décidé préalablement de faire. Ces soldats qui s'écrasent au sol, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur non plus des Juifs qui ont fait ça à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus là. Parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est vainqueur. Notre vie chrétienne, et j'aime pas cette expression, mais je l'utilise pour que vous compreniez, notre démarche dans la foi doit se faire sans crainte du châtiment et de plus, sans crainte de l'adversaire. Pourquoi? Parce que celui que nous aimons, celui que nous servons, est sorti vainqueur de la mort, du séjour des morts, du tombeau, et il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, et il a fait de tous nos adversaires notre marchepied. Donc, en tant que chrétien, bannissons la terreur, bannissons la peur de notre vie, parce que nous savons en qui nous avons cru. L'ange va compléter, je termine ici ce matin, en leur disant, ne craignez pas, pourquoi? Parce que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Parce que je sais que vous cherchez Jésus. Le terme chercher, c'est le terme grec zeteo. Zeteo. Z-E-T-E-O. Je répète, zeteo. Z-E-T-E-O. Qu'est-ce que veut dire zeteo? Zeteo veut dire tout d'abord chercher avidement. Chercher avec ardeur. Chercher avec avidité. Foncièrement, ça veut dire avoir un désir absolu. Chercher Dieu avec tout le désir de votre cœur. L'ange est en train de leur dire, vous n'avez pas à avoir peur parce que je sais que vous êtes haut. Je sais que vous cherchez Jésus avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez, avec toute votre force. Vous êtes venue ici démunie, vous êtes venue ici tremblante, vous êtes venue ici faible, mais vous êtes venue avec tout ce que vous aviez. Vous êtes venue avec cette quête absolue de trouver Jésus. Est-ce que j'ai ce désir absolu de voir Christ? Ou c'est tout simplement, c'est comme un passe-temps, je veux m'amuser jusqu'à un certain point. Je trouverais ça agréable de voir Jésus. Est-ce que c'est trouver la chose agréable ou c'est un désir absolu? C'est la quête de ma vie de voir Christ. C'est la quête de ma vie de voir Christ se manifester dans ma vie. C'est la quête absolue de mon être de voir Christ en action dans ma vie. Zéthéo, cherchez avidement. Zéthéo, lorsqu'on regarde dans un dictionnaire biblique et dans un lexique, on va même le traduire par « chercher pour trouver ». La formulation est amusante, « chercher pour trouver ». Parce qu'on se dit, ben, logiquement, on devrait toujours chercher pour trouver. Mais assurément, si on est obligé de spécifier que nous entrons dans cette recherche pour trouver, ça veut donc dire que parfois on peut rechercher sans nécessairement aspirer à trouver. Lorsqu'on parle de Zéthéo, chercher pour trouver, ça veut dire que je vais mettre tous les efforts. Je vais faire tout ce que ça prend pour le trouver.
Si ça prend de me joindre à l'autre mari pour pousser le rocher, si ça prend d'aller prendre la lance d'un de ses soldats pour essayer de bouger la pierre, si ça prend d'aller chercher quelqu'un d'autre pour rouler la pierre, on va trouver quelqu'un, on va trouver un moyen d'entrer. C'est avec ce cœur, avec ce désir, avec cette détermination absolue qu'elles se sont pointées au sépulcre. Et parce qu'elles étaient zétéo, parce qu'elles avaient ce désir absolu, cette détermination irrépressible, l'ange leur dit, vous n'avez pas à avoir peur, parce que je sais que vous cherchez Jésus avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez. Notre Dieu se laisse trouver. Notre Dieu se laisse découvrir. Mais l'intimité de notre Dieu ne peut se découvrir qu'avec Zétéo, en cherchant comme désir absolu et en cherchant avec la détermination absolue. Quelqu'un un jour, et la phrase n'est pas de moi et je terminerai là-dessus, quelqu'un un jour a expliqué que on devrait aspirer, languir après Dieu de la même manière qu'on languit après notre prochaine bouffée d'air. Retenez votre souffle pendant quelques secondes, peut-être 10, 20, 30, 40 secondes, 60 secondes. Certains sont peut-être capables d'aller un peu plus loin, mais qu'est-ce qui se passe lorsque j'arrête de respirer? J'ai ce désir profond, ce besoin profond d'une respiration, d'un prochain souffle, d'une bouffée d'oxygène. Si on cherchait Dieu avec cette même détermination que notre prochaine respiration, si on cherchait Dieu avec ce même besoin et désir absolu que notre prochaine respiration, on trouverait Dieu comme jamais auparavant. Alors je prie mon frère, je prie ma sœur pour toi et pour moi. Qu'on comprenne que Dieu répond à nos quêtes. Dieu répond aussi à l'état dont on fait preuve. Dieu nous indique toujours le chemin. Dieu ne se tourne pas le dos. Dieu ne te tourne pas le dos. Il veut que tu le trouves. Il veut que tu le rencontres. Il veut que tu t'approches de lui. Il aime cela. Et parce qu'il aime ça et parce qu'il t'aime, il se laisse trouver. Mon frère, ma sœur, nous devons bannir la terreur de nos vies. On ne doit plus vivre sous la terreur d'un châtiment éventuel de Dieu, sous la terreur que ma relation est quand même avec un Jésus, avec une cravache prêt à me battre à toutes les occasions qu'il aura. Un père qui battrait, qui aurait toujours une cravache en main, un enfant ne s'approcherait pas de lui. Et ça serait assurément la même chose si notre Père Céleste avait toujours la cravache. Pourquoi on s'approcherait de lui? Notre Dieu, on nous dit que qu'il est amour. Alors il ne peut pas être avec la cravache et avec l'amour. Dieu est juste. Dieu châtie celui qu'il aime. Mais il châtie dans la bonne mesure, dans la bonne proportion. Et il n'est pas là pour simplement te taper sur la tête. Non, il est là pour te former, il est là pour t'encourager, il est là pour t'aimer, il est là parce qu'il sait que tu le cherches et il se laisse trouver. Et il t'accueille avec ses bras ouverts et il t'embrasse. Nous ne devons plus vivre sous la peur des adversaires. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est sorti vainqueur, puissant, champion contre la mort, le séjour des morts, le diable et tous ses acolytes. Mais pour le trouver, pour que Dieu nous rencontre, pour que Dieu nous parle, il faut le chercher avidement, comme un désir absolu, et le chercher dans l'unique objectif et avec l'unique option qui est « je vais le trouver ». Je le cherche mais je vais le trouver. Je m'approche, mais je vais le toucher. Un peu comme cette femme qui a une perte de sang et qui dit « Si je peux simplement toucher le bord de son vêtement. » Et elle se faufile malgré la menace. Elle se faufile malgré son état qui n'est pas bien. Elle se faufile pour aller tendre la main et toucher le pan de la robe. Et quel rendez-vous elle a eu avec Jésus. À l'instant même, la perte de sang s'est terminée. Et Jésus a dit « Il y a quelqu'un qui m'a touché. » Quand on cherche Zétéo, Dieu, quand on cherche Dieu de façon zétéo, il le sait. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Que tu puisses entendre Jésus à ton égard dire, il y a quelqu'un qui m'a touché. Seigneur, merci pour ta parole. Une parole qui nous encourage ce matin à te chercher comme la prochaine bouffée d'air, à te chercher comme on a besoin d'oxygène pour rester en vie. Seigneur, nous ne voulons plus vivre sous la peur, sous cette image erronée que le diable donne à ton égard, que le diable essaie de répandre à ton égard. Nous savons que tu es un bon père. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu prends soin de nous. Et nous savons que tu désires qu'on s'approche de toi. Et que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Alors Seigneur, nous ne voulons plus vivre sous la peur d'un châtiment divin. Nous voulons vivre par amour pour Christ. Nous voulons que l'amour soit la pièce dominante, la pièce directrice de nos actions, de nos paroles, de notre état. Seigneur, nous ne voulons plus vivre sous la peur des adversaires parce que nous savons que tu as fait de tous nos ennemis notre marchepied. Seigneur, ta fille, ton fils sont dans cette quête zétéo de toi. Je te prie, Seigneur, de répondre. Je te prie, Seigneur, de parler dans nos vies. Aujourd'hui même, nous t'avons prié dans ton glorieux et précieux nom, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle le rendez-vous de ce soir, 19h, avec le pasteur André, pour l'étude biblique sur l'épître aux Éphésiens. Même si vous avez été absent les semaines précédentes, il n'y a pas de problème à chaque chapitre que le pasteur André développe. C'est toujours une leçon qui peut être prise dans son ensemble par elle-même. Et il fait toujours un petit retour en arrière des leçons précédentes. Donc, on vous invite à être là, sinon même à écouter durant la journée les autres enseignements qui ont été prodigués à travers les dernières semaines par les différents ouvriers qui sont avec vous. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve quant à nous demain matin, 8h30, pour la prochaine bénédiction matinale. Et si je ne m'abuse, demain, ce sera donc le verset 6. Et le verset 7, je crois. Alors que Dieu vous bénisse et à demain. Au revoir tout le monde.